France Culture.
Totalement envahi depuis le jour de ma naissance par une sorte de, d'arbre de la négativité, je dirais. Mais si ça va pas, j'écoute de la musique. Ou je joue. Je me mets au piano ou à la guitare et de suite, tout s'évanouit un peu. C'est pour ça qu'on fait ces métiers. Moi, si j'ai un bourdon terrible, même malade à crever, je prends ma guitare et en 5 minutes, je retrouve la forme. C'est pas mal comme métier. J'ai pas de frais de psy comme ça. Juste une guitare.
Un cœur, des ténèbres. Jean-Louis Bergeau dit Murat, 1952-2023.
On sentait que c'était la nuit. Beaucoup de nuit. Ça me fait frissonner.
Comme je vis mal, je n'ai plus que toi. Et vois, comme je vis mal, ah, je n'ai plus que toi. Hey, hey, vois comme je vis mal. Ah, je n'ai plus que toi.
Chapitre 1, les Bergeaux dans le paysage.
Alors, qui sont ces Bergeaux? Alors, c'est marrant qu'ils ne le reprennent pas, parce que... Non, mais c'est vrai qu'on accroche si souvent notre nom.
Yann Bergeaux, c'est pas le premier fils.
Naturel de dire Bergeaux.
Parce qu'il y a un H quelque part.
Il y a H.
Qui est où?
GH. Ouais. GH. Donc, normalement, on devrait dire Gue, mais on dit Bergeaux. Les Bergeaux viennent d'où? Ils viennent d'une vallée un peu reculée, même totalement reculée en Auvergne. Ils n'ont pas forcément beaucoup bougé. Un peu comme toutes les familles en Auvergne. Donc, ce sont des femmes qui sont ancrées, qui respirent leur terroir, qui ont à la fois façonné tout ce paysage, ils l'ont forgé, et puis, d'une certaine manière, ce paysage aussi, ce terroir, a forgé les gens qui habitent dans ces vallées.
De toute façon, on n'est jamais très loin de chez Jean-Louis, dans les chansons de Jean-Louis, et il y a beaucoup de lieux qui sont visibles de chez lui.
Donc, chez lui, ça se trouve où précisément?
Ça se trouve à Orcival. Voilà, à Orcival, dans un lieu dit qui s'appelle Douarès.
Pourriez décrire l'endroit?
Orcival, c'est un petit village qui est dans un creux, qui est au creux d'une petite vallée. Et, en sortant d'Orcival, on prend la direction du lac du Guéry par la départementale. Et on monte, et on arrive à Douarès. Et Douarès est sur une sorte de promontoire au-dessus d'une vallée, avec au sud les roches... Tulière et Sanadoire, et au-dessus, en face, le plateau du Guéry, et sur la gauche, à l'est, une montagne qui s'appelle Louire. Douarès, c'est vraiment un petit promontoire, quoi. Voilà, avec une vue, avec une orientation au sud, incroyable, avec un paysage très, très beau.
Et puis, ce qui était fou quand on allait là-bas, c'est que tout à coup... Tous les noms qu'on ne comprenait pas dans les chansons, on les voyait sur des panneaux.
C'est ça. Ouais.
Moi, j'aimais bien ça. Je disais, ah oui, c'est là. Effectivement, toutes ces chansons sont des panneaux. Et c'est super. Enfin, je crois que c'est vraiment fondamental pour le comprendre. L'ancrage. Je dirais que sa religion, c'était cet ancrage-là. Pour moi, la chanson clé de ça, c'est Accueille-moi, paysage.
À la guitare, Matelot, la jeune garde.
Tourne au virage, 100 mètres à droite, voilà la maison. 100 mètres à droite, pas de quoi te faire de mouron. Dernière congère sur une dernière clôture qui gémit. Dernière lumière sur un dernier abat-jour, dernier bruit. Dernière prière au grand Dieu de la santé. Dernier je t'aime en dernière volonté.
Lui, il était heureux dans sa maison. Ça lui... Jean, il n'est pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'amis, il n'est pas comme moi.
Marie Audigier, la compagne, la manageuse.
Lui, il aime, il écrit tous les jours. On avait super bien aménagé son studio avec son piano, manger à heure régulière, travailler, faire du sport. Ça, ça lui convenait très bien. Et partir en tournée aussi, il aimait, mais il fallait pas que ça dure trop longtemps quand même, il fallait qu'il revienne à la maison. Hein.
D'accord.
S'occuper de son potager, alors ça, il s'adorait. Il adorait faire la chasse aux rats aux pieds. Ensuite, les choix qu'il a fait par exemple, faire des tournées où il ne faisait jamais les tubes, sortir un disque une fois par an, il savait très bien que c'était pas les clés du top 50, mais c'était pas le plus important. Pour lui, le plus important, c'était de construire une œuvre.
On traîne les soirs en tonique, voir ce marketeur que l'on flique. On dit que rien tu cherchais, New Yorker, mon New Yorker. Puis la neige fixe nos pas. On sait d'où l'on vient, où l'on va. A-t-il à changer New York, mon New Yorkais.
Il a tout à fait l'habitude de sortir d'Auvergne et de voyager.
Oui.
Hein, ah pas oui. Du tout.
Ah non, c'était pas le problème. Il est parti à Nashville, une envie d'aller à Nashville, d'aller se frotter. Jérôme, musicien américain, aux légendes. On a parlé à plusieurs reprises et donc il m'avait dit bon. Les musiciens, tu les rencontres, ils t'écoutent, et puis faut d'abord que tu joues. Et puis une fois que t'as joué, eh ben on va peut-être venir jouer avec toi. Ben un peu à l'épreuve, mais en même temps sans aucun a priori. Et il s'est retrouvé comme ça avec quoi. Je regardais le palmarès, quoi, de tous ces artistes qui sont passés avec lui sur un album et qui ont accepté de faire un cachet parce qu'il faisait des albums qui coûtaient pas cher, qui était un cachet, on va dire, on pourrait qualifier de syndical, quoi. Et non, c'était... je pense qu'il aurait aimé le faire plus souvent.
Carla Bruni, la chanteuse invitée.
Il me faisait l'impression d'un troubadour, d'un ménestrel, quoi, dans le vrai sens du mot. Quelqu'un que l'on embaucherait pour aller sur la fenêtre d'un bien-aimé ou d'une bien-aimée pour... lui chanter quelque chose.
Ah oui.
Sauf qu'après, il part avec la bien-aimée.
J'aimais déjà dire je t'aime, je t'aime, je lui dis. Je savais que dans une semaine, elle serait loin d'ici. Tous ces amours de courte haleine embellissaient nos vies. D'un éclat mauve de bruyère au mont sans souci.
Les termes, donc les termes de la bourboule, les termes du chou-ci, Les monos, c'était comme dans la chanson. C'est la colline du Mont Sans Souci qui, où les enfants allaient se balader après ils aient fait leur cure contre l'asthme au terme de la bourboule.
Quand et comment avez-vous compris, Jean-Louis Murat, que votre grand-mère avait des dons de sorcellerie ?
Avec Laura Adler.
J'aurais tendance à dire après sa mort, mais non, mais je me souviens évidemment de son vivant. Je me souviens une fois le chef des pompiers venant lui demander de faire des prières pour arrêter un incendie. Ouais. Après, je m'y suis intéressé, Grand Albert, toutes ces choses-là. Puis elle avait déjà parlé avec le diable, donc moi je le croyais tout à fait. Une fois, elle avait été poursuivie par des loups quand elle ramenait du pain aussi, et les loups lui avaient rien fait.
Bah,
j'ai plein d'histoires comme ça.
Cet univers de contes, de folklore, de racines rurales continue à hanter votre.
Tout à fait. Ouais. Ouais. Ouais.
Votre mood, votre teinte.
Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais,
votre poésie.
Oui. Ah oui, ça c'est sûr.
C'est une idée derrière. Comment puis-je te répondre ?
Fred Rimenes, le bassiste, le compagnon de route.
Et Jean-Louis, il a ce truc-là, c'est-à-dire que j'ai l'impression que des fois il est en freestyle, et quand il s'exprime, il y a une espèce d'inconscient comme ça, paysan, français. Avant, les gens étaient persuadés qu'il y avait l'esprit du vent, il y avait l'esprit qui était incarné par des... Ben, dans l'eau, c'était des ondines, et les gens pouvaient presque les voir, hein, donc...
C'est une pluie de feuilles. C'est la fraîcheur de...
Moi, j'ai été élevé par des gens qui croyaient vraiment que les choses nous dépassaient et qui savaient un peu les vénérer, le reconnaître. Un peu comme, je sais pas, aurait fait Ulysse, par exemple. Donc ça remonte à une sorte de vieille tradition, comme ça, où on invente des histoires. On essaie d'apprivoiser le surnaturel qu'on considère étant très, très important dans l'existence. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Et alors, j'ai l'impression d'avoir eu la grande chance de côtoyer des gens dans notre temps.
Herbe têtue, rouge calèche, toboggan rentré. Le temps est long qui nous ramène les filles avec l'été. Quand l'éclat mauve délétère n'éclaire plus ma vie, je vais dormir dans la bruyère au Mont Sans Souci.
Dans ce sens-là, Jean-Louis était très très... on pourrait dire américain, entre guillemets, parce qu'il était vraiment sur ses racines. Je crois aussi qu'il avait été élevé beaucoup par ses grands-parents, donc il avait eu une éducation très très proche de la nature, très proche des bêtes, et je pense qu'il avait un instinct, une intuition très très forte, et il rentrait un peu aux communications, disons, avec les éléments ou les élémentaux, qu'on retrouve forcément dans la nature. Je pense que l'énergie d'un arbre, ça devait lui parler. Il était capable d'imiter tous les bruits des oiseaux. Il avait vraiment besoin de cette nature, de communiquer avec les vaches, par exemple. Il parlait beaucoup des vaches. De splendeur, de concession de mine. crois que la porte qu'il a ouverte, c'était comment concilier une discographie majoritairement anglo-saxonne, parce que Jean-Louis est un passionné de musique blues, de musique, il adorait Dylan, il adorait des gens comme ça, et aussi un mode d'expression en français. En fait, c'était dans l'intention de la voix. Jean-Louis a réussi à garder un mode d'expression française très poétique en chantant sa vie et en trouvant une manière de chanter qui était assez douce, en fait, qui convenait bien aux Français. Je pense qu'il a réussi ce tour de force de mettre le français dans le blues. C'est pas le seul à avoir fait des bons textes en français ou quoi, mais tout ce qui lui arrivait devenait une chanson. Donc c'est presque une thérapie, quoi.
Evelyne, v'là la déroute, le bonheur qui nous fait du sang. Viens, vulgaire amour, que je t'étripe finalement. Impossible chienne, amour au corsage défait. Pourquoi courir le ciel? Il n'y a rien à en tirer. Oui, la mort descend, la mort est bien comme on le dit. Je vois son plus simple appareil. Oh, mon lit d'amour, dis-moi que tu
m'as. D'entendre le français chanter de cette façon-là, avec cette suavité.
Dominique A, le chanteur.
Je sentais un goût pour les vieilles choses, la vieille pierre qui me parlait.
Ciel, ciel, il fait un temps de chien. Neige et pluie depuis ce matin. Allons, viens, fuyons au cinéma.
J'avais vraiment la sensation qu'on entendait un peu les feuilles craquer quand il chantait. En fait, j'ai l'impression de me balader en forêt, en fait. Et quelque chose de très vaporeux. Et je me disais, ouais, cette façon de chanter avec ces sons-là, au fond de moi, je cherchais ça. Sans le savoir, en fait. Pas forcément mettre l'accent sur l'énergie ou sur une forme d'intensité, de nervosité, mais mettre justement l'intensité de côté et essayer de chanter les choses de façon apaisée. Ça me séduisait beaucoup. Je trouvais des correspondances, une forme de finalement, peut-être, de se dire on est comme un élément du décor. On décentre un petit peu. Une forme de volonté d'effacement, en fait. Comment à la fois se mettre en avant, se prétendre justement, et puis en même temps en revendiquant une forme de distance. La distance chez Murat, dans ses enregistrements à l'époque, elle est très étudiée en fait. Il y avait pour moi une connexion, une filiation pour nous, les aspirants chanteurs et chanteuses issus de la pop anglo-saxonne et du rock dit indépendant qui était en pleine expansion à l'époque. C'était un peu le commandeur.
Il y a un grand malentendu à propos de Murat. Il y en a plusieurs, mais il y en a un grand. C'est que ce serait un homme de mots avant tout. Et je pense que c'est là que ça a coincé avec la critique française.
Olivier Nuc.
Moi, j'ai passé du temps avec lui dans un contexte privé.
L'ami.
Intime.
Le journaliste.
Il écoutait que de la soul chez lui. Et toutes ses chansons, elles démarraient par un groove. Donc, vous voyez, le mythe du grand poète qui aurait mis en musique ses paroles, non. Non, ça, je trouve que c'est quelque chose sur lequel il faut insister.
Dis ton cœur et graine-t-il comme un regret.
J'ai été colonisé par la culture américaine, mais colonisé par le son, même par l'accent, par les images, absolument tout. C'est-à-dire que c'était Davy Crockett ou Big John, ou je sais pas, c'était pour moi c'était l'absolu. Voilà. L'absolu, après la musique californienne, le cri d'Inde, le je ne sais quoi, c'était l'absolu.
C'est incompréhensible pour moi parce que je connaissais pas plus que ça Murat. De ce que j'en percevais avant ça, c'était un chanteur de variété un peu trop beau pour être honnête pour moi. Je trouvais avec ses yeux bleus et l'écoute forcenée de Dolores, puisque le disque passait en boucle dans le bureau du rédacteur en chef des Un Rock à l'époque, Christian Feuvray. Donc j'avais que le son, j'avais aucune perception, et je me suis levé, je me souviens, je suis entré dans le bureau, j'ai dit « qu'est-ce que c'est là, qu'on écoute, c'est vachement bien, c'est le nouveau Jean-Louis Murat ». Et j'ai eu du mal à connecter avec ce que je connaissais de lui, parce que pour moi c'était vraiment autre chose. Je trouvais qu'il avait il portait une radicalité qui passait pas par les mêmes codes que les musiques que j'écoutais, mais qui étaient présentes. Il était radical, déjà. Ce disque-là était quand même très sombre, très intense, très produit. Et je me souviens d'une grande force et d'une grande maîtrise. C'est ça qui m'avait vraiment impressionné. Je trouvais que, pour moi, c'était bien plus qu'un chanteur français de variété, là, tout à coup. C'était vraiment un grand. Très vite, j'ai mesuré que c'était un grand artiste devant moi. J'ai trouvé extrêmement serein et puissant.
Chapitre 2. Il faut aimer Jean-Louis Murat.
Il faut aimer ces vannes des troubles et la honte. Choyer l'âme vagabonde qui s'est montré le chemin. Il faut aimer que le corps vivant ce monde vive heureux chaque seconde comme un amant ruisselant. As-tu aimé chanter? Aime-moi, as-tu aimé que se referment ses bras? As-tu aimé poser ton cœur à l'intérieur d'un être heureux? As-tu aimé t'enfuir loin parfois? As-tu aimé retrouver tes pas? Oui, saurais-tu souffrir à l'intérieur d'un être heureux.
Comment vous nous décririez ce Jean-Louis? Enfin, faut que je l'ai rencontré vraiment. Il m'a fait l'effet d'être très timide. Voilà, il est un peu en retrait, la tête un peu baissée, le regard par en dessous, il m'a jeté un regard.
Matt Lowe.
Très rapide, ensuite il a rebaissé les yeux, mais par ailleurs très chaleureux directement, beaucoup de présence évidemment, beaucoup de chaleur et une poignée de main franche. Quelqu'un de solide quoi, de solide avec des bonnes paluches.
Et les yeux?
Bah les yeux, ouais, c'est ce que tout le monde remarquait chez lui, le regard bleu. Souvent en plus, beaucoup de gens le voient après les concerts, et il aimait bien avoir un petit trait, je pense, de maquillage, un petit trait noir qui renforçait cet effet-là, en fait, ce regard bleu hyper intense et un bleu qui, en gardant la même couleur, pouvait passer du glacial au brûlant, quoi. C'est ça. Parce que le bleu glacial, on connaît bien, mais le bleu brûlant, on connaît moins, mais il était fort dans le bleu brûlant aussi.
J'ai pas le bonheur par métier, A, B, C, D. Princesse des bois, des ronces et déjeuner. Reine des bois, des ronces et déjeuner. Brûle-moi, 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 brûle-moi. Merde.
c'était de l'énergie, quoi. Pour moi, pour nous, les jeunes, c'était... putain, le gars nous apportait vraiment une énergie incroyable, en fait, et une envie de faire les trucs et d'être avec lui. Lui, c'était... Voilà, c'était... C'est le groupe, on était une équipe de sport collectif, quoi. Voilà, c'était le capitaine, c'était le chef aussi. Voilà, c'était le chef.
C'était le chef sympa, un bon chef.
Ouais, ouais, un super chef qui a tellement travaillé en amont, qui est tellement sûr de son fait et de ses chansons et de ce qu'il fait, que tout ce travail, toute cette confiance en lui, lui permettait de nous donner la liberté de faire des choses et de tenter des choses.
Est-ce que c'est pas un endroit de masculinité, justement, un peu chéri de son côté, ou pour l'homme qui ne pense qu'à la femme ?
Si, bien sûr. Je pense qu'il est toujours hyper heureux de partir en tournée pour être avec ses copains. C'était très masculin, oui. C'était vraiment très masculin, et je pense qu'il aimait ça, et c'était une parole libre, voilà, qu'il pouvait avoir aussi...
Comment est-il quand il parle à une femme ou quand il y a une femme dans la pièce ? Ouais. Il se décrit souvent comme un animal quand même, intéressé d'abord.
Ouais, ben c'est, j'imagine. Après, c'est vrai que quand... De toute façon, quand il rentrait dans une pièce, que ce soit les hommes ou les femmes, tout le monde était un peu happé par lui parce qu'il dégageait un truc. Et comme il a toujours beaucoup joué du côté... séducteur... voilà... romantique, un peu torturé et tout ça, c'est il faisait de l'effet, c'est sûr. Alors après, j'hésite à en dire plus sur ça. En tout cas, je sais pas, pour une femme, pour moi en tout cas, oui. Enfin, ce côté animal, ça, c'était quelque chose que tu ressentais vraiment fortement, et puis vraiment il grognait des fois, tu sais, quand tu posais une question, c'était ni oui ni non, t'entendais comme ça, espèce de truc, des bruits de bête, un peu, quoi. Ah ouais, c'était...
Les grognements des animaux, globalement, c'est peut-être ce qui me rapproche le plus des humains. J'ai toujours adoré avoir des amis à qui j'apprends différents grognements d'animaux et où on peut pratiquer la sexualité simplement avec des grognements de façon animale. Ouais, ça j'aime beaucoup. Ça demande beaucoup de créativité, beaucoup de poésie, quoi.
On en apprend des choses avec vous, Jean-Louis Murat.
Oui, je vois.
Je venais retrouver entre ces peupliers l'état de grâce et l'ombre fugace que l'on pourchasse, suivre sa parfaite trace.
Chaque fois que j'écris une chanson, je pense à une personne. En général, c'est évidemment une femme. Donc je suis une sorte d'esclave quand même. C'est vrai, vraiment un esclave du fait féminin qui me fascine, et je peux pas écrire... Il faut que j'ai l'impression, chaque fois que je termine une chanson, que j'ai l'impression d'une femme, qu'elle juge ce que j'ai fait, si ça va ou si ça va pas. Dans ce sens-là, j'ai été mal terminé, disons. Il faut toujours que j'ai un avis féminin pour terminer ce que j'ai à faire. Mais c'est vrai qu'avec Camille, aussi bien, ou qu'avec Isabelle Huppert, on faisait vraiment la paire. Voilà. Donc, je dirais presque, ou des américaines ou tout ça, mais... Je dirais pas, parce que si sexuellement ça va pas, on peut pas chanter ensemble. Donc je suis un peu ce genre de...
Ah bon, tout passe par le sexe.
Ce genre de garçon, pas à chaque fois, mais disons que je fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire que si l'expérience, si sexuellement l'expérience est pas intéressante, c'est pas la peine de chanter ensemble.
Voir ce curieux gibier que l'on ne peut noyer sous la menace du temps qui passe. J'ai la vision tenace du vierge espace.
Nous sommes débutants.
j'ai une affection très forte pour les amours débutants, sur que ce rapport à aux premières amours et aux émois, aux premiers émois. C'est une chanson qui a certes vieilli sur le plan de la production, mais qui dit tellement bien ça, qui raconte tellement bien ce que c'est de cette idéalisation, c'est ce qu'on devient. En quelques phrases, j'ai l'impression qu'elle elle dit plein de choses, cette chanson. J'adore cette chanson. J'adore cette façon de dire l'amour, en fait. Le timbre de voix, mais la façon dont on chante les choses. Ce que ça dit de la personne et de ce que ça dit de son regard sur les choses. Je trouve que c'est ça qui est passionnant. Et le Murat que je préfère, ça reste celui-là pour moi.
Ah, il était très séducteur, avec quiconque d'ailleurs. Il avait vraiment un taux de séduction très élevé. Une forme de séduction très poétique. Très simple.
C'est la maladie d'amour qui nous apprend à ne jurer de rien. C'est la nature de mon sang, par le sang où l'amour me tient. Et je passe toutes mes nuits en idée de bonheur, au soleil de votre vie. Je ne sais dire votre nom, mon désir, ça je le savais. Et où est votre maison? Mon plaisir, ça je m'en doutais. C'est la maladie d'amour qui nous tient le corps. Cette odeur de toujours.
Aimez-vous les uns les autres, c'est quand même assez indépassable. Quoi. Enfin,
avec Aurélie Svez.
Et puis moi, c'était extrêmement lié à la sexualité, parce que quand même, dans la famille, si ma mère écoute, il y a plein de trucs que je ne peux pas dire, mais bon, disons, mon père, c'était... fallait être sexuel.
Fallait être une bête.
Ouais, ouais. Et je crois que mon père, c'est une bête, une vraie bête. Souvent au début je le disais ça, je disais ça sentait du foutre à la maison tout le temps.
Il faut bien qu'il y ait des gens qui aient du mauvais esprit dans un monde où tout le monde a du bon esprit.
Mm-hmm.
Non, vous croyez pas?
Si, 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 si. Non mais c'est vous qui posez les questions, là, ici.
J'ai fini là.
Et votre femme intérieure, c'est très toujours Scarlett O'Hara, insatisfaite et jamais d'orgasme.
Ouais, on ne croit pas.
C'est ce que vous avez dit, non?
Je sais pas, comment se fait-il que ça vous ait autant frappé?
Bah ça m'a frappé, parce que Scarlett O'Hara, ça m'a frappé. Je me suis posé la question, parce que vous avez quand même une séduction qui est assez trouble. Alors j'ai trouvé Scarlett O'Hara insatisfaite et jamais d'orgasme, j'ai trouvé ça drôle.
Et ça, c'est assez excitant que vous ayez sorti cette phrase.
Assez excitant?
Ouais, je suis d'accord.
Ah, c'est bien, on finit bien la séquence.
Non, je suis d'accord.
On va pouvoir inviter notre...
Une fille qui s'appelle Hardy, c'est très excitant.
Ah ouais? Qu'est-ce qui vous fascine dans l'univers féminin, justement, vous qui êtes fasciné par l'univers féminin?
Les filles qui rosissent un peu comme ça.
Il ne sait rien de la fille, rien de défini. Aller de ci, de là, sans faire de dégâts. Tirer de l'ennui, le jeu d'une vie. Est-ce bien là un rôle pour moi? Ou suis-je ce vivant qui ne sait pas qu'il est mort? Ou suis-je ce vivant qui ne sait pas qu'il est mort?
Chapitre 3.
l'artiste en prince ahuri.
Che vi devo dire? Mi piacerebbe di sapere una cosa. Perché lui mi ha lasciata là fino all'ultimo momento? Anche per la gente.
L'harmonium, c'était madame Quénon. Et derrière ce pylône-là, et moi j'étais fasciné. C'était ma première manifestation, un peu d'indépendance. J'ai dit, je vais apprendre le piano, je vais prendre des cours avec madame Quénon. Et moi, je n'étais pas d'un milieu où on apprend à jouer du piano.
Vous faisiez quoi, vos parents?
Je faisais à foutre. Hein.
Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était quoi, le milieu?
Ma mère était couturière et mon père était menuisier. Tous fils de paysans, donc élevés à la dure un peu.
Je vais encore faire un parallèle avec Neil Young, mais le père de Neil Young a toujours n'a jamais pris au sérieux les tentatives musicales de son fils ado, alors que sa mère a acheté sa première guitare. C'est les mamans. Et je pense qu'avec son père, il était en conflit. En plus, il a été père jeune. Enfin, je crois qu'il a jamais réglé ce truc-là. Il parlait jamais de son père.
Ah, je suis pas loin de penser que si mon père se qualifiait de môme éternel, si la figure de l'enfant revient aussi souvent dans ses textes, c'est bien que il y a une explication vis-à-vis de ce traumatisme, parce que moi je le qualifierais comme ça, qu'il a vécu quand il était enfant, et c'est normal. Mon grand-père n'a pas été, je pense, moi, véritablement à la hauteur. Il a plutôt fui. Donc il est parti, mon père était très jeune, et fatalement ça a créé un manque.
Votre grand-mère, du coup, Jean-Louis a été élevé par elle, je pense. Ils étaient tous les deux très attachés, vous avez dû la connaître un peu plus. Est-ce qu'elle, elle l'a plus soutenue, sûr, dans ses ambitions un peu, pas simplement artistiques?
Ah, est-ce qu'elle l'a vraiment soutenue? Je suis pas sûr. J'ai comme l'impression que c'était... c'est plus lui, que, finalement, qui l'a amené à peut-être à s'intéresser aux arts, à le dessiner, ma grand-mère. Il y a des tableaux qui sont magnifiques de ma grand-mère, vraiment.
Moi, je pense que, à la suite de la disparition de sa mère, je pense qu'il s'est laissé mourir, Jean-Louis. Il était malheureux. Il avait un chagrin immense. Il n'allait pas bien. À la fin.
Les autres, il y en a 1000 qui viennent peupler ses chansons. Soldats sans troupes, amis suicidés, anti-héros pendus. Longue file de mort ou presque, que l'écriture vient sauver du néant, le temps d'une chanson. Plus qu'à ses amoureuses, on dirait que c'est à eux que Murat réserve son empathie, sa véritable tendresse. Toutes ces silhouettes anonymes, ces figures historiques en train de déchoir, tous esquissent une fratrie étrange, rattrapée par l'insurmontable solitude de chacun. D'après Agnès Guéraud, la balade de Murat.
Il a gagné quand même bien sa vie en écrivant pour Indochine ou pour les gens de variété, je pense que...
Dominique A.
Mais en même temps, je pense qu'à la fin, il ne roulait pas sur l'or non plus. Ses droits d'auteur avaient dû bien fondre comme neige au soleil, parce qu'à la fin, personne n'achetait plus ses disques. Il ne passait plus trop en radio parce qu'il avait un peu découragé tout le monde, tous les médias, et... C'est un gâchis, hein, de toute façon, mais c'est irresponsable. Ce qui est terrible, c'est que Murat, il avait un public... qui était assez conséquent, qu'il a perdu en cours de route. On n'était plus assez nombreux à l'aimer tant qu'il était là. Mais comme disait l'autre aussi, pour être aimé, il faut être aimable.
Le boucher s'est pendu à ce qu'on dit. Hier au coin de la rue derrière la mairie. La crémière a rien vu, c'est bien triste tout ça. V'là que le boucher mourut. Qu'est-ce qui nous a fait ça?
Je pense qu'il jouait un jeu avec les médias. Il était un peu l'idéal comme client, parce qu'il était ténébreux, il était impulsif, il était cultivé, profond.
Il y avait toute une série de gens, de personnes qui aiment beaucoup ce que fait Jean-Louis, qui l'encourageaient. en disant, mais même des journalistes lui disaient, mais c'est génial des interviews comme les tiennes, personne n'ose dire ce que tu dis, c'est hilarant, surtout ne change rien. Après je lui disais, bah bien sûr que personne n'ose dire ce que tu dis, parce que tu paies les conséquences après, quand tu dénigres Nagui est un con, ça a été 10 ans sans taratata.
Mais dans la crevasse, je trouve dégueulasse tous mes souvenirs. Hier à la poste, j'avais une mine atroce, mais que font les gens? Ils collent des plumes en des tonnes d'amertume, crient ou entendent. Dans de la rancune, il n'y a plus de plume. Dans.
Est-ce que Mustango l'a changé, à votre avis?
Pas du tout. Alors, je ne sais plus quel âge il avait quand il a fait Mustango, mais c'est un artiste déjà assez mûr, qui a déjà derrière lui 5-6 albums. Enfin,
il a presque 50 ans. Lorsqu'il
a presque 50 ans.
Alain Artaud, ouais. Le directeur du label. L'homme de confiance.
Il a un esprit d'explorateur assez juvénile. Et je pense que dans sa carrière, il a toujours cherché à la fois des nouvelles voies, des nouvelles façons de faire. Il s'est assez renouvelé, finalement, même si il a sorti beaucoup de disques.
Oui, mais bon, avec votre accord.
Avec mon accord, avec mon soutien, en fait.
Ouais. Pour regretter, aujourd'hui?
Non, je ne regrette pas ça. Et c'est vrai que la tournée de Mustango après, c'était fantastique, parce que il envoyait des boucles, des samples, des voix. C'était très mystérieux. Et moi, je me souviens d'un concert à Saint-Gervais où il neigeait dehors, lui chantait nu dans la crevasse. C'était complètement dingue. Il envoyait des bandes, des discours de je ne sais plus qui en américain. Tout ça, c'était très, très particulier. Mais c'était très éloigné. Je pense que ça perdait un peu les gens de Mustango, qui voulaient leur Mont sans souci, leur Jim. Et à la place, ils avaient un Murat inventif, très créatif, et qui partait dans une autre direction. J'ai toujours été le voir sur scène, en fait. Et parfois, je ne comprenais pas un traître mot de ce qu'il chantait. Et je trouvais ça complètement paradoxal pour un type qui était pour moi un des meilleurs paroliers français. Du reste, pendant ce concert au Palace, où il y va, donc il joue de la guitare et on comprend pas tellement les paroles et tout ça, mais bon, si on connaît déjà les disques, on s'en sort à peu près et tout, mais, et puis tout d'un coup, il joue une chanson. Alors, peut-être un piano-voix, je ne sais plus quelle est la chanson, disons que c'est, admettons que ça soit le Mont sans souci. Et là, les gens se mettent à applaudir. Dingue! Mais c'est pas le Mont sans souci, c'est une chanson moins connue. Mais simplement, on comprend tout ce qu'il dit. Et là, il dit lui-même, ah, vous vous réveillez, j'avais l'impression que je baisais une morte. Et là, je trouve ça complètement dingue, parce que c'est totalement... Là, je suis furieux. Je me dis, mais merde, tu vois, non seulement on comprend pas quand tu chantes, et après, ça y est, ta façon de faire, ton génie d'écriture éclate, et tu fous tout en l'air, en fait.
Mon nom de scène est Gengis, je suis né à Valparaiso. Reconnaissez-vous Gengis qui enchante les mots. Assis au bord de l'eau, vous jouez à la marelle. Oh, et hissez au amour que le ciel est haut. Prisonnière au bord des lèvres, longtemps vous fûtes l'enfant de trop, pataugeant dans la nacelle, vous ne fûtes qu'idéo. Assis au bord de l'eau, vous jouez à la marelle. Oh, et hissez au amour que le ciel est.
vent lève la poussière sur de tristes, de bien tristes jours. Ta beauté jette du sel sur mes blessures d'amour. Assise au bord de l'eau, vous jouez à la marelle. Oh, et hissez haut amour que le ciel est haut.
Les fans avalent une dernière couleuvre en octobre 2021, quand Murat fait part dans Paris Match de son admiration pour Éric Zemmour et Michel Onfray. Le premier pour son côté « fuck the system », le second pour sa virilité stoïque. Une sortie évidemment commentée qui en éclipse une autre, celle de son ultime album, « La vraie vie de Buck Jones ». D'après Bruno L'Esprit, « Le Monde ».
Je crois qu'il y a des chanteurs comme ça dont moi je préfère écouter les chansons et voilà.
Alex Baupin, auteur-compositeur.
Après, à côté de ça, dans la manière dont lui concevait et faisait son métier, je trouve qu'il y avait une démarche. Ça peut être aussi ça, être politique, ça peut aussi être dire, mais moi j'en ai rien à foutre de ce système de l'industrie du disque. J'ai envie d'écrire un album par an et de continuer à produire, parce que quand on est chanteur, il faut travailler. Il avait l'idée profonde, c'est vraiment poète et paysan, Murat, voire poète ouvrier, mais il était plutôt paysan. Il y a cette idée que quand on est chanteur, on chante et on écrit des chansons. Et je trouve que la façon dont il a mené son parcours de chanteur, avec quelques grands succès au début et après, la volonté farouche de continuer envers et contre tout, de pas aller à Paris alors qu'on est dans un état centralisé, voilà. Ça dessine quand même un parcours politique dans le sens où il montre aux chanteurs une voie, une façon d'exercer ce métier qui, quelque part, est un peu militante.
Vous l'aimez ou vous la fuyez, en fait, cette époque?
Non, je déteste, faudrait pas dire grand-chose, mais pas de bol d'être tombé, pas de bol. Pas de bol dans cette époque. Cette époque où tout est trop rikiki. Cette époque des mois étriqués me convient pas du tout, non. J'aime les héros, j'aime l'aventure, j'aime les guerriers, j'aime les choses vastes, larges. J'aime Alexandre, j'aime Bonaparte, j'aime Jacques Anquetil, et je déteste l'étriqué.
Adorait se faire plaindre, donc c'était le premier à râler. Oui, mais moi, écoute-moi, ces merdes qu'on entend à la radio, tati tata, et moi. Mais il a une très belle carrière, avec une liberté totale. Il a fait absolument ce qu'il a voulu. Donc pour moi, c'est vraiment... Sa carrière, elle est très réussie.
Quand j'ai commencé avec lui... On vendait quand même beaucoup plus de disques.
Fred Rimenes.
Les tournées étaient assez grosses, c'était vraiment des marathons et Jean-Louis était un gros gros bosseur. Donc ça faisait 2 albums par année, 4 mois de tournée, 2 fois 2 mois. Je sais qu'au début, par exemple, quand on tournait, Jean-Louis conduisait la voiture. On faisait quand même 2 mois de tournée à raison de 5-6 dates par semaine. Jean-Louis ne lâchait pas le volant, et quand même il chantait et tout ça, donc bon... Et c'était quand même très éprouvant, hein. C'était une dimension sportive, il n'arrêtait pas de dire qu'il y avait une dimension sportive dans ce qu'on faisait. Et vers la fin, 2018 à 2023, crise économique aidant, il y avait plus que 2 ou 3 techniciens qui avaient plusieurs casquettes, parce que c'est comme ça. Et voilà, mais ce moment-là nous a rendu... beaucoup plus de fraternité, le fait de plus avoir non plus de compétition par rapport à d'autres artistes, d'être juste content d'être là pour produire de la musique. Moi, bizarrement, ça a été presque une des plus belles périodes, en fait.
On a appris la mort du chanteur Jean-Louis Murat. Il avait 71 ans. Découvert tout jeune par William Scheller. Il était également auteur, compositeur. C'est son titre « Si je devais manquer de toi » qu'il avait fait connaître en 86. On se souvient aussi de son duo avec Mylène Farmer, « Regret ». Il s'est éteint chez lui en Auvergne.
Le truc, déjà idiot, mais ça pourrait être que mon père faire ça, c'est... Il a tellement horreur des toubibs que c'est pas lui qui appelle les urgences. Voilà. Et bon, c'était l'erreur. Parce qu'en fait, il n'a pas appelé les urgences, les téléphones passent mal. Il arrive à avoir l'ex-femme de mon père qui essaye d'avoir les urgences, mais les urgences, ils lui disent ben, il faut qu'on ait l'intéressé au téléphone avant de savoir ce qu'on peut faire. Et au final, ce sont les pompiers qui arrivent. Et une fois que les pompiers sont arrivés, ben, ils constatent qu'il faut les urgences, le SAMU. Et donc, le SAMU, ils arrivent bien trop tard. Quoi. Tout a été fait à l'envers.
Et vous, vous étiez à Lyon ?
Moi, j'étais à Lyon. Et on avait prévu voilà, d'aller tous le voir. Ce week-end-là, c'était un week-end où il y avait 3 jours. Hein. Ben, il y a un lundi, peut-être, je ne sais plus, je sais plus.
Le rang de femmes et de lombardes viendra déposer, je le crains, son blanc manteau, mon camarade, sur l'âme folle. Le vent déchire sur la Limagne, a abattu tous les ronds. Partout on ne jure que mitraille, que vengeance, que punition. On jure par les saillies du diable, qu'un mal qui épargne les chiens, tuer les amants en cascade, tous les gens jeunes, tous les gens sains.
Si je devais choisir un seul adjectif pour Jean-Louis, ce serait romanesque. Bien sûr romantique aussi, mais romanesque. Romanesque en profondeur, vraiment. Un besoin de dimension, de destin. Je suis contente qu'il soit mort d'un coup. Vraiment, je suis soulagée. J'espère qu'il n'a pas eu peur, je pense pas.
En larmes bleues, un bleu final.
Surtout, ce qui est frappant, enfin moi ça m'a vraiment troublé, c'est qu'il avait toujours dit, un best-of c'est pour les gens morts. Et le best-of est sorti alors qu'il était mort. La veille. Moi, ça me trouble totalement. Il y a quelque chose. Je crois pas au hasard.
Son triste cœur, ce voix de être, nous ferait donc croire au malin.
Un épilogue en forme de best-of.
C'est l'anniversaire de la photo, vous savez, l'interview légendaire. Brel Brassens-Ferré. C'est paru sur un réseau social et j'ai fait un commentaire en disant que moi j'avais essayé, moi, il y a 15 ans, de refaire une table ronde comme ça avec Bachung, Manset et Murat.
Et fou. Pas content.
Non. Mais ce qui est fou, c'est que dans les commentaires, il y a plusieurs personnes qui mettent « Pour nous, Murat n'est pas au niveau des deux autres. » Pour moi, il n'y a aucun doute qu'il est au niveau des deux autres. Aucun doute. Mais vous voyez, il continue de payer cette espèce de mépris... qu'il a peut-être cultivé aussi lui, enfin qu'il a recherché sans le vouloir, mais enfin, pour moi c'était un grand de son vivant et sa disparition le rend vraiment, enfin c'est une grande figure de la chanson, point. C'est plus l'heure pour ce genre de réserve, ou de, vous voyez, ça m'a blessé pour lui, ça m'a blessé. Même dans la mort, c'est pas serein, vous voyez. Le rapport qu'il a établi n'est pas très serein.
Ah, c'est déjà terminé. Vous voulez passer une petite chanson? Faut bien choisir, hein.
bed. Un jour ils nous rouvriront la boucherie. C'est la bête elle-même qui me l'a dit. Me prend pour un neveu, regrettera notre absence le jour du feu.
Un cœur, des ténèbres. Toute une vie de Jean-Louis Bergeau, dit Murat. Avec Dominique A., Alain Artaud, Marie Audigier, Yann Bergeau, Carla Bruni, Matelot, Olivier Nuc et Fred Rimenès. Un grand merci aux nombreux groupes de fans pour leur ferveur et leur pépite. Merci également à Guillaume Despagne et à Laure Desbruères. Prise de son, Pierre-Henri. Archive INA, le grand entretien avec François Bunel. L'heure bleue avec Laure Adler. À la dérive avec Jean-Louis Murat. Aurélie Sfez pour Radio Nova. Tout le monde en parle avec Thierry Ardisson et Linda Hardy, France Télévisions. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire d'Antoine Couder et François Teste.